En lieu grand ouvert, sans rideau baissé, au vu et au su, tu veux forniquer. T'aimes quand te mate autant qu'on te baise, et jouir sans témoin, c'est pas pour ta fraise. Chez la maquerelle, on clôt le verrou, et dans les bordels, zéro œil au trou. Des prudes putains suivent donc le credo, leur boulot se fait derrière un tombeau. Tu diras que je vois toujours tout noir, fou tant que tu veux, mais te fais pas voir. 1.35. J'écris des vers un peu légers, des qu'on ne lit pas au lycée. Dis-tu, mais ces petits écrits sont ce que doit être un mari. Pour son épouse, il faut la queue pour qu'il lui plaise un tant soit peu. On n'écrit pas d'hymne à Vénus quand on roupille du phallus. Pas question que mes vers habillent joli putain en vieille fille. Aux fantaisies que je compose, la règle, un effet sexe impose. Cesse de me sonner les cloches et laisse là tes réticences. Ne châtre pas mes indécences. Eros, viré curé, c'est moche. 1.46. Quand tu dis je viens, vas-y, illico, mon pauvre engin vire autour à mollo. Dis plutôt piano, c'est ça qui m'excite. Dis-moi ralenti si tu viens trop vite. 1.83. Ton petit chien te lèche la figure. Normal, vu le goût des chiens pour l'ordure. 1.94. Du temps qu'on te foutait, ton chant était minable. Si là tu chantes bien, c'est que plus n'est baisable. 2.7. Tu déclames bien et tu plaides bien. Tu composes bien, tu rédiges bien, tu mimes bien et analyses bien. Fort bien en grammaire, astrologie bien. Bien comme chanteur, danseur aussi, bien. À la lyre, bien. Au tennis, très bien. Rien au bout du compte que tu ne fasses bien. En bref, je te le dis, tu nous emmerdes bien. 2.33. Une chauve, ah non, ça j'embrasse pas. Une rousse, ah non, ça j'embrasse pas. Une borgne, ah non, ça j'embrasse pas. On n'embrasse pas, on suce en ce cas. 2.62. Que tu sois épilé des jambes et des bras, et qu'autour de ta queue ce soit tondu à ras, ça c'est pour ta nana, ok, on l'a bien vu. Mais va savoir pour qui tu t'épiles le cul. 3.26. À toi ton domaine, à toi tes trésors, et à toi tout seul ta vaisselle en or. À toi seul tes couverts en argent fin, à toi seul tes champagnes et tes vins, à toi ton esprit, tes dons, tes jardins, quant à ton épouse, à tout un chacun. 3.53. Me passer de ton visage, ok, sans problème. De ton cou, de ta main et de ta cuisse, idem. De ton cul, de tes seins et de tes reins, itou. En résumé, je n'ai besoin de rien du tout. 7.16. Plus un rotin, je brade tes présents. Ça t'embête si je te les revends ? 7.62. Tu fous tes mignons sans fermer la porte et aimerais bien qu'on te voie qui trique. Pourtant, tu as peur que chacun colporte par mauvais esprit ce que tu fabriques. Si tu veux vraiment cacher tes plans cul, fais ça sans témoin ou ne le fais plus. 9.57. Rien de plus pelé que n'est son manteau, ni l'anse écaillée au col d'un vieux pau, ni le pauvre flanc d'un cheval fourbu, ni le cou râpé d'un mulet chenu, ni au bord de mer les galets usés, ni le creux des ornières du sentier, ni le pic frotté au dur des cailloux, ni les vêtements d'un vagabond soûl, ni la roue d'un tombereau cahotant depuis des années tout au long des champs, ni l'échine des fauves encagés, ni la défense usée d'un sanglier, rien de plus pelé qu'une serpillière, sinon la peau de son foutu derrière. Et dans le genre plus bucolique, 9,90. Oui, couché dans les graminées, près de l'éclat des eaux perlées, qui roulent des cailloux sous l'onde, loin de tous les fâcheux du monde, fait fondre au vin noir la surface du pot que rafraîchit la glace. Une pivoine orne ton front, jouis pour toi seul de ce giton, et que les filles les plus pures t'adressent des pensées impures, mais ne cède pas aux ardeurs de qui brûle dans ses chaleurs la déesse chère à Cythère, en ce mois où pour les moissons on broie les gerbes sur les airs sous la crinière en feu du lion. Pitié, Vénus, pitié pour lui, qu'il revienne vers ses amis. Au long de l'an, je brûlerai pour toi l'encens et j'offrirai à tes autels le vin sans eau, le sang et les petits gâteaux.
Alors, merci beaucoup, Christian, d'avoir permis de mettre dans l'oreille de tout notre public quelques-unes des épigrammes de Martial. Alors, je vais commencer par une première question basique. Il y a chez vous, j'ai l'impression, deux temps de traduction de Martial nettement différenciés. Quand vous exerciez comme professeur de latin avec vos élèves de collège, et puis ensuite en juin 2011, quand je vous ai de me solliciter pour retraduire plusieurs épigrammes de Martial pour mon séminaire de master, que je montais alors à Valenciennes, sur l'obscénité en perspective, antiquité et modernité. Nous en avons deux rescapés. Alors, pourquoi avoir accepté de retraduire Martial en 2011? Ce n'était pas du tout évident que vous acceptiez. Et qu'avez-vous cherché à trouver, voire à retrouver, dans la traduction de 2011?
J'ai redécouvert Martial un petit peu par hasard en tombant sur le livre de traduction d'une centaine d'épigrammes qu'avait proposé Dominique Noguez pour la collection Orphée, à la différence, il y a un certain nombre d'années maintenant. Et j'avais eu devant ce livre exactement la réaction qu'évoquait Marcello il y a quelques instants, à savoir séduit par les traductions, pas complètement convaincu et sollicité par le désir de retraduire exactement pour les raisons que tu disais. Alors, il se trouvait que j'enseignais le tant bien que mal, enfin plutôt mal que bien d'ailleurs, le latin à des élèves de troisième ou de seconde, je ne me rappelle plus bien, dans un établissement scolaire à l'époque, que ces jeunes gens n'étaient pas absolument passionnés par les auteurs du programme classique. Les Cicéron, César, enfin les récits de guerre d'une part et les textes à caractère philosophique de l'autre, et que je cherchais des choses qui puissent aviver, on va dire, leur pulsion épistémologique, ce qui n'était pas une chose aisée. Donc voilà, et je m'étais dit que la poésie à la fois dans sa légèreté, enfin dans son caractère apparemment anodin, et puis dans sa propension à s'intéresser aux histoires de cœur, on trouverait des choses qui seraient un peu plus intéressantes, un peu plus sollicitantes. J'ai beaucoup travaillé à ce moment-là avec Ovid, avec l'art d'aimer en particulier, parce que c'est de la poésie d'un grand gamin, un peu mondain comme ça, qui dit des choses jolies, et enfin plus profondes qu'elles en ont l'air, mais essentiellement jolies d'abord. Et effectivement, ça marchait beaucoup mieux avec Ovide qu'avec Cicéron. Et puis, j'ai essayé Martial et en prenant dans la série des épigrammes qu'avait traduit Noguès, pas les plus obscènes, parce qu'il y a des prudences à prendre avec les jeunes gens et surtout avec leurs parents. Mais évidemment, ça marchait beaucoup mieux, parce que la poésie de Martial n'est pas une poésie difficile du point de vue de la langue, du point de vue formel. Elle est très intéressante à tenter de transcrire à partir d'une sorte de défi, de challenge formel. Et puis évidemment, les petites vacheries, les petites insultes adressées à celui-ci ou à celui-là, ça plaisait beaucoup à ces jeunes gens. Ça a été le départ, voilà. Et puis après, il y a eu la sollicitation que vous m'aviez faite. Comme je ne résiste jamais à vos avances, vous le savez, j'ai dit oui d'abord pour cette raison. Et puis ensuite, surtout parce que, comment dire, entrer d'une manière un peu plus sérieuse, je devrais dire, dans un processus de traduction de Martial, c'est-à-dire d'abord, comme je le disais, de retraduction des épigrammes déjà traduites par Dominique Noguès, c'était, je crois d'abord très simplement, me rendre plus clair à moi-même les raisons qui avaient fait que je m'étais intéressé à ces textes. Voilà, c'était d'abord à mon propre usage, comprendre ce qui, chez ce poète, m'intéressait, comprendre les raisons pour lesquelles j'avais eu envie de revenir sur ces textes et de leur redonner une forme qui, pour moi, soit plus satisfaisante, et comprendre ce faisant, c'est-à-dire en traduisant, dans le mouvement même de la traduction, les raisons qui faisaient que ce poète m'intéressait, bien que je pense, en tout cas, c'est ce que je pensais et ce que je croyais savoir à l'époque, qu'il ne s'agit pas d'un grand poète, voilà. Qu'il s'agit d'un poète mineur, voilà, mineur en tout cas par rapport à la magnificence beaucoup plus complexe qu'on voit passer chez Virgile ou chez Lucrèce, n'en parlons pas, mais même chez Horace. Voilà, et cet aspect de la facture et plus encore de la thématique et de l'inspiration poétique de Martial m'intéressait comme tel. Vous savez, de la même façon qu'on peut savoir parfaitement que Jan Steen ou Teniers sont des moins grands peintres que Rembrandt ou que Vermeer, et être, quand on passe dans un musée, extrêmement intéressé par ce que ces peintres nous proposent d'anecdotique. Voilà. Quant au monde dont leur peinture nous parle, et quant aussi à la virtuosité de la facture au travers desquels ces éléments anecdotiques passent. On sait bien que ce n'est pas Rembrandt, on sait bien que ce n'est pas la profondeur, la richesse, l'ambiguïté, le flottement, quoi, proprement pictural qu'on peut voir à l'œuvre chez Rembrandt. On sait bien que ça ne provoque pas la sensation de l'énigme sollicitante que Vermeer provoque, mais on est à la fois dans une espèce de familiarité heureuse, parce qu'il n'y a pas de profondeur énigmatique, et puis dans une admiration pour la virtuosité de la facture. Voilà.
Vous faites écho, là encore, merveilleusement, à notre journée d'aujourd'hui de travail, où on parlait de donner la parole aux voix mineures. Martial, donc, vous a intéressé, outre la demande que je vous faisais pour cette raison, qui était une manière aussi de retrouver quelque part la grandiloquence d'une bibliothèque latine par cette voix mineure, si je vous comprends bien. Mais d'un autre côté, quand vous dites que c'est plus léger, c'est une poésie peut-être moins énigmatique qu'un Horace ou un Virgile, quand je lis la postface que vous avez ajoutée après donc les 650 que vous avez retraduits, je me dis que s'il y avait eu que cette légèreté, vous ne seriez pas passé des 15 que vous m'avez donnés aux 650. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que de 15 vous alliez jusqu'à 650?
Si j'avais pu, je serais allé jusqu'au 1500 que l'œuvre de Martial, telle qu'elle nous est parvenue, comporte. Simplement, comment dire, il y a, comme je l'ai dit dans la postface au volume, il y a quand même un relativement grand nombre d'épigrammes qui ne, me semble-t-il, hein, c'est un jugement comme ça assertif, mais qui ne relèvent que d'un intérêt patrimonial. Voilà, c'est-à-dire on peut s'intéresser à ces textes-là parce qu'ils sont... Ce sont des témoins, c'est-à-dire ils relèvent d'une logique muséale, comme ça ils sont dans l'espace de l'histoire avec leur référence au milieu culturel, linguistique, philosophique, politique dans lequel ils apparaissent. Mais d'un point de vue moderne, enfin de notre point de vue à nous, ça s'est tellement éloigné dans le temps que pour que cela présente encore de l'intérêt à une lecture actuelle, il faudrait un appareil de notes, par exemple, que je n'avais pas envie de devoir fournir, parce que mon propos n'est pas de l'ordre du savant, n'est pas de l'ordre de l'universitaire, n'est pas de l'ordre de cette préoccupation de scientificité, d'historicité-là. Donc j'ai éliminé un grand nombre de textes. Enfin, je n'ai même pas essayé d'entrer dans la traduction. Mais au bout du compte, comme vous le disiez, ça fait quand même 650. Mais là, il faut prendre en compte, et là, je le dis pas simplement par rapport à Martial et à la traduction de ces épigrammes, il faut prendre en compte deux choses. Quoi. Premièrement, dans l'existence d'un écrivain, les moments où il n'écrit pas. Voilà, les moments où il n'écrit pas, c'est-à-dire les moments où moi je suis pas un écrivain qui écrit quotidiennement, tout le temps, de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année. Je traverse très très de longues périodes où je n'écris au sens strict rien, quoi, sinon des petites notes sur des carnets, et je ne trouve pas ça ni particulièrement douloureux ni particulièrement jouissif, c'est un fait. Sauf que Dans ces moments d'entre-deux livres, il y a d'une manière ou d'une autre une voix comme cela qui réclame à ce que le cerveau fonctionne et que l'activité de manipulation du matériau linguistique continue, persiste dans des portées et sur des questions. Autre que celle que les livres que par ailleurs on écrit, on publie, traitent. Voilà. Alors pour moi, par exemple, ça peut prendre la forme de la rédaction d'articles, du travail théorique. Voilà. Et la traduction est une de ces façons d'occuper ce temps, cette vacuité, voilà, d'occuper cette vacuité tout en ne s'éloignant pas de la préoccupation de langue qui est effectivement ma préoccupation. C'est pourquoi il m'est arrivé de traduire des poètes allemands ou de l'italien ou des choses comme ça, à partir d'une compétence zéro dans tous ces domaines. Mais dans cet esprit-là, voilà. Donc, Martial et votre demande en particulier sont arrivés dans un moment comme cela, c'est-à-dire... J'ai repris les quelques traductions que j'avais déjà faites, qui étaient en nombre limité, ça ne tournait pas plus de 20 ou 30 épigrammes, à un moment où j'en avais terminé avec les enfants chinois et où j'étais dans la phase un peu dépressive, il faut bien le dire, hein, ça produit ça à la fin des livres, hein, qui faisait suite aux gros efforts de composition et d'écriture sur ce livre, sur ce gros livre, voilà. Et donc j'ai commencé cela comme une espèce d'exercice comme ça, de remise en forme, voilà, on va dire les choses, quoi. Et puis intervient le deuxième point, puisque j'en avais annoncé deux, c'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup une machine d'enthousiasme qui se met en marche. C'est-à-dire que quand on commence, enfin, c'est un « on » comme ça, qui, je ne sais pas si on peut le généraliser, mais quand on commence à entrer dans la langue d'un autre et de peu à peu mettre au point quelques solutions minimales de recyclage de cette langue dans une autre langue, en l'occurrence la mienne, qu'on décide d'une manière relativement arbitraire, mais peu importe, d'un certain nombre de principes de traduction, et pour moi en particulier, ça a été la décision de traduire en vers, et en vers rimé, et en vers prosodiquement classique. Le processus du défi C'est-à-dire un processus qui est fait à la fois de l'appel du texte auquel on s'attache et de l'exigence de trouver dans la langue d'arrivée une forme par laquelle on soit relativement satisfait. Ce processus-là se met en route, et se met en route non pas dans la sensation d'une difficulté, mais dans la sensation de plus en plus emballante, exigeante, d'une... comment dire, d'un processus de traduction quasi non-stop. Il y a eu un moment où je traduisais 10 épigrammes par jour, parce que très simplement, je ne pouvais pas m'arrêter. Quoi. C'est-à-dire que c'était l'appel de ce rituel presque, et de la violence de son allégresse. Hein, c'était une espèce de joie. Je me souviens, Wanda était aux États-Unis à ce moment-là, et j'en voyais tous les jours... tous les soirs par mail, et le résultat de mes brillantes opérations en riant tout seul de mes trouvailles. Voilà, je ne valorise pas les trouvailles en question, mais je veux dire, ce que j'aimerais faire comprendre, c'est que tout cela se passe pas du tout dans une difficulté ou dans un scrupule, d'ailleurs, c'est ce qu'on peut reprocher à ce type d'opération, mais se passe dans la sensation de je ne trouve pas de meilleur mot, de l'allégresse, quoi, c'est-à-dire d'une joie à trouver des solutions de transcription qui sont, dont une part de la nature, je parle de la nature de cette joie, est faite de la désinvolture, quoi, c'est-à-dire aussi de la sensation de... comment dire, à la fois de transcrire quelque chose qui est dans le texte de départ, mais de dire zut, quoi, toutes les exigences qui seraient celles d'une vérification scientifique de la validité des opérations programmées. Voilà. Je conseille ça à aucun traducteur, hein, mais moi je fonctionne comme ça, quoi. Et ça veut dire aussi qu'à un certain moment, que c'est comme tous ces processus humains, cet enthousiasme ou cette allégresse tombe devant le mur de la répétition, et donc la fabrication de l'ennui, et c'est comme ça que ça s'arrête, c'est comme ça qu'on fait 650 et non pas 720, voilà. Il n'y a pas d'autres critères, il y en a sans doute, mais pas pour moi, en tout cas. Voilà.
Il semble pourtant qu'il y ait eu un critère, c'est que malgré tout, quand on lit l'ensemble, il y a quand même une large dominante sur ce que vous concédez vous-même et qui est, on va dire, la thématique de l'obscénité. Il y a quand même eu un choix et qui a largement dépassé ma propre sollicitation.
Ben, au risque de vous décevoir, je ne crois pas du tout, non. Je crois que la proportion de textes à caractère obscène, elle est à peu près... Alors, statistiquement, ça se vérifierait, je ne verrais pas l'intérêt de le faire, mais ça pourrait se vérifier. Je crois qu'elle est grosso modo la proportion de textes à caractère obscène qui figure effectivement dans les épigrammes de Martial. Voilà. J'ai essayé de retenir... pas du tout d'une manière mathématique... ni programmatique d'ailleurs, des exemples en très grand nombre aussi, de par exemple des épigrammes dans lesquels Martial parle de la vie littéraire de son temps, de ses démêlés avec ses plagiaires, avec ses fans un peu insistants, avec ses critiques, avec ceux qui lui mendient des exemplaires gratuits et qui renvoient chez le libraire, avec ses lecteurs... pas les lecteurs au sens oral qui s'emparent de ces textes et qui défigurent les textes, enfin bon, tout ce qui concerne la vie littéraire. Bon, j'ai essayé aussi de retenir tout un aspect qui n'est peut-être pas l'aspect le plus intéressant chez Martial, parce que celui-là il est plus rituel, qui est tout le côté bucolique, élégiaque, un peu épicurien, comme ça, des choses. Et puis tous les petits textes, ils sont simplement des petites vacheries comme ça sur deux vers adressés à tel ou tel. Voilà. Bon, la dimension obscène, elle est très très présente, mais elle est très présente chez Martial. Hein. C'est de l'ordre de sa déclaration à lui, bien sûr. Mais elle n'est pas exclusive. Deux, je suis à peine sûr qu'elle soit dominante, quoi. C'est-à-dire, c'est ce qui frappe le plus par rapport à ce qu'on entend couramment par poésie. Et puis bon, le surgissement des termes obscènes et la thématique obscène, ça fait toujours son petit effet. Je me demande bien pourquoi, d'ailleurs, mais toujours est-il que c'est un fait. Mais par rapport, par exemple, au choix que je viens de faire, là, qui est, où il y a beaucoup de choses de ce domaine-là, dans le volume tel qu'il est publié, la proportion est moindre, quoi, je crois vraiment. Hein.
Vous avez lu, effectivement, aussi légèrement la proportion. Cependant, je dirais que la proportion est quand même là massivement, et ça va être maintenant le corps de notre réflexion. Tout dépend aussi de ce qu'on appelle obscénité. Et là, j'ai l'impression que Martial a raisonné en vous pour les deux sens que vous prêtez à l'obscénité, c'est-à-dire évidemment il y a le sens sexuel, mais il y a aussi le sens que vous développez dans la voie de l'écrit. Et où l'obscénité, c'est aussi cette manière de mettre en scène l'échec de la langue. Et dans les choix d'épigrammes que vous avez pris de Martial, est-ce qu'il y a ça aussi qui a joué? Parce que Martial régulièrement dit, le mot n'est pas approprié, ou tu me reproches ce mot-là, mais je vais te parler en langue latine. Voilà, vous récusez le fait qu'il y ait de l'obscénité, mais sauf que j'ai l'impression qu'elle a résonné avec vous pour la complication du mot que vous lui portez.
Ben, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Hein. Il y a, dans les épigrammes, il y a un contenu obscène qui affleure parce que des termes à caractère obscène surgissent dans le mouvement du poème. Bon, voilà. Ça relève d'une sélection sémantique, quoi. Il y a quelque chose qui relève de l'obscène parce que les scènes, les petites scènes de genre, je disais tout à l'heure à propos de la peinture, les petites scènes de genre qui sont, les petites vignettes de genre qui sont souvent... que sont souvent les épigrammes de Martial, évoquent des scènes à caractère sexuel, la prostitution, les gitons, les putains mâles ou femelles. Voilà. Bon, ça, c'est de l'ordre de la thématique, hein, c'est de l'ordre d'une certaine thématique qui n'est pas si exceptionnelle dans l'histoire de la poésie, mais en tout cas qui est insistante chez Martial. Voilà. Il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que choisir de traduire Martial et choisir de le lire, d'ailleurs, simplement, quand on est par soi-même un poète de langue française, qu'on s'est intéressé à l'histoire de la poésie, de langue française en particulier, mais aussi d'autres langues, et en particulier de la langue latine, par exemple, c'est articuler ce qui se passe chez Martial, bah, essayer de le faire, articuler ce qui se passe chez Martial à, comment dire les choses, une tradition, une histoire qui est, je mettrai des guillemets à ce mot, mais qui est une autre histoire de la poésie française. C'est-à-dire c'est une histoire de la poésie française que l'histoire officielle de la poésie française ne retient pas, non pas tellement... pour la censurer, mais ne retient pas au prétexte qu'elle serait, je reprends le mot, mineure, moins intéressante, moins profonde, au regard de la grande tradition qui, dans le mouvement de la poésie française, nous amène de Villon au poète de la Pléiade, au romantique et puis au surréalisme. Mais dans le dos de cette histoire-là, si je puis dire, ou dans les caves de cette histoire-là, il y en a une autre. Hein. Il y en a une autre qui passe par les sotties médiévales, qui traverse ce qu'il y a de préoccupation de langage poétique chez Rabelais, qui circule sous la grande rhétorique du XIVe siècle, qui réaffleure comme ça d'une manière frontale avec le Parnasse satirique de l'époque... de l'époque classique, dont on sait peu de choses, auxquelles on s'intéresse peu, parce que précisément les grandes traditions classiques les ont oblitérées, voilà, et puis qui ensuite rampent comme cela derrière les romantiques pour ressurgir tout d'un coup dans les aspects les plus violemment potaches de Rimbaud, du Rimbaud de l'album Zutik, de Jarry évidemment. Voilà, ouais, bon, je ne vais pas poursuivre sur ce plan, mais voilà, moi, j'étais intéressé, je ne dis pas qu'il s'agisse d'une filiation, comment dire, martiale d'un côté, etc., et tout ce que je suis en train de dire, d'une filiation qui serait, comment dire, qu'on pourrait fonder dans l'ordre d'une analyse de type scientifique d'une succession d'influences, par exemple. Je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il y a toujours, dans l'histoire de la poésie, à côté de la grande poésie à ambition métaphysique, à ambition ontologique, à ambition mythographique, à ambition aussi lyrique, dans l'acception la plus noble de ce terme-là, il y a toujours eu un négatif de cela. Il y a toujours eu un négatif de cela, un négatif qui prend des formes diverses, mais dont on sait au moins que la négativité, et peut-être que ce n'est pas autre chose que de cette négativité qu'il s'agit, la négativité s'appuie sur un élément qui est l'obscène, mais ce n'est pas l'obscène en tant que tel, c'est l'obscène en tant qu'il fait grumeau, quoi, qui fait résistance dans l'ordre du processus d'idéalisation à quoi le poétique s'assimile le plus souvent. Le premier mode d'incarnation, parce que le plus visible est l'obscène, mais dont le deuxième mode d'incarnation, qui est aussi une forme de l'obscène, est la trivialité. Là, j'entends bien là au plan des niveaux de langage, quoi, la trivialité. Et généralement, obscénité, trivialité, d'autant plus corsetée par une forme rhétorique perfectionnée, que c'est le perfectionnement stylistique de la forme rhétorique qui valide la possibilité pour ces poètes-là d'utiliser comme thématique l'obscène et comme registre sémantique, le trivial.
Mais justement, en fait, il me semblait, moi, que dans votre choix de persister et signer dans Martial, il y avait aussi cette volonté de rendre voix à un Martial qui lui-même a été un poil à gratter dans la littérature latine et qui est resté un poil à gratter dans le monde des traducteurs. Et par exemple... précisément cette trivialité qui a été tue, qui a été refoulée même dans les genres dits mineurs, et que Martial met sur le devant de la scène en la problématisant, vous avez voulu lui rendre justice. Et lui rendre justice dans une histoire de la traduction de Martial qui part... on va dire du XVIIe siècle, je pense à l'abbé Marolles, et pour faire sentir l'écart de traduction, je propose voilà, une traduction. Alors Marolles, par exemple, a choisi de censurer, de ne pas traduire, une épigramme, l'épigramme 2.28. Alors, au moment où l'épigramme 2.28 arrive, au lieu de traduire, Marolles a juste amorcé ce commentaire. C'est-à-dire qu'on a 2.28, et puis au lieu de la traduction, on a « Cette pièce est insupportable, et la première de celles qui ne se peuvent traduire. » Et ensuite, on a 2.29. Et donc, pour vous dire le contenu de la pièce, vous l'avez. Alors, je commence par ensuite la traduction... on va dire jésuitique, dans la lignée jésuitique de Monsieur Isaac, collection des belles lettres, 1930. Les dates sont importantes. Hein. Puis après, Christian, ça ne vous dérange pas, vous retrouverez votre 2.28 et on fera la comparaison. C'est fait. Alors, je donne quand même le latin. Ridetto multum quite sextile quinaedum dixerit, et dignum porigitto medium. Rilongement, Sestilius, au nez de qui te traite d'inverti, et tend vers lui ton médius. Sed pedico est nectu sextile fututor, mais d'autre part tu n'aimes ni les jeunes garçons, Sextilius, ni les femmes. Calda, venustitate nectibi buca placet, et la bouche brûlante de Venustita ne te dit rien. Existis nihil est fateor sextile. Tu n'as aucun de ces goûts-là, je le reconnais, Sextilius. Quid ergo est, qu'aimes-tu donc? Nescio, c'est tout ce qui s'est suppressé duas. Je ne sais, mais toi, tu sais bien que deux choses restent encore.
Ris bien de qui te traite de giton, et fais-lui donc un doigt d'honneur. Tu n'es ni pédé ni baiseur, et la pute à la bouche chaude, non. Rien de cela n'est ta tasse de thé, reste deux autres possibilités.
Isaac dit, tu n'aimes ni les jeunes garçons, vous voyez, les jeunes garçons, pédés, voilà, c'est comme ça qu'on affadit, on va dire, la crudité du texte latin, qui dit bien, sec nec pedico est. Et pedico, en latin, c'est bien, c'est un terme extrêmement violent et insultant. Le verbe pedico, avec mes étudiants maintenant savent traduire dans le texte, ça veut dire enculé. C'est vraiment le terme, et on trouve des embrochés ou des choses qui contournent l'enculade. Hein. Et tu n'aimes ni les femmes, donc, et vous avez traduit par tu n'es ni baiseur. Hein. C'est foutou tout or. Et foutou, c'est ce qui a donné notre foutre. Voilà. Hein. Donc là, vous voyez, vous donnez plus à lire, vous donnez à lire la violence du lexique latin. Et de situation de violentement, hein, puisque pédicare est un supplice, pédicare est une punition de justice, hein, ou le viol du foutoir quand il n'est pas consenti. Donc vous donnez à lire ce qui est tu par la tradition, hein, ou qui est contourné par un affadissement en faux sens ou par des périphrases. Vous gardez l'énigme. Tu sais bien que deux choses restent encore. Parce que le texte latin garde l'énigme, parce qu'il garde une énigme qui est en fait une énigme qui fait rire tout le monde et qui fait partie en fait du genre des priapés, qui est un style tout à fait particulier d'épigramme latine, en l'honneur du dieu Priape au sexe bandant démesuré, et où le jeu consistait à dire des horreurs sous forme de charades. Donc le suspens du mot latin, de la lingua latina, de la langue realia latine, que tout le monde entend et reconnaît, est deux fois plus savoureux dans la mesure où il est retenu. Et vous avez parfaitement compris cet énigme. Et alors, la note savoureuse de Isaac, donc on a une note, hein, deux choses restent encore, et là on a skilliket, fellare et glubere. Vous remarquerez que la note est en latin, c'est un commentaire en latin, fellare signifiant sucer, hein, et glubere, premier sens écorcé, qui a donné branlé. Voilà. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que vous comprenez le jeu d'énigmes, vous comprenez qu'il ne faut pas l'éclaircir là, alors que vous éclaircissez le PD ou le baiser, alors que dans ceux qui retiennent l'obscénité, c'est-à-dire qu'ils mettent des jeunes filles et des jeunes garçons à la place des pédés et, on va dire, des putes ou des femmes fous, eh bien, à ce moment-là, veulent éclaircir l'obscénité, mais en repassant par une langue qui n'est plus comprise pratiquement que par un quart de la population. Voilà, donc c'est ça que je veux dire. C'est que vous essayez de rendre gorge à ce qui a, de toute tradition, été tu dans la traduction, d'un réel que Martial, lui, avait choisi de dire in lingua latina, c'est-à-dire sans détour. Et c'est pour ça que je vous ai mis l'épigramme 1.35, parce que là, je me heurte à un paradoxe par rapport à votre politique de traduction. Et je voudrais vous interroger sur ce paradoxe. Vous l'avez lu le début tout à l'heure. Hein. J'écris des vers un peu légers, « Versum scribere me parum severos », dès qu'on ne lit pas au lycée, nec quos praelegat in scholas magister, dis-tu, mais ces petits écrits sont ce que doit être un mari. Hein, Corneli queris et iglibelitam quan coniudibus suis mariti, pour son épouse, il faut la queue pour qu'il lui plaise un tant soit peu. Non possum sine mentula placere. Et là, vous voyez tous dans l'exemplier, j'ai souligné mentula, qui est le mot latin ad hoc, que vous avez traduit par que. Et là, il me semble que vous êtes repassé en dessous de la violence, on va dire, réelle, du corps, que Martial a mis dans la Mentula. Parce que Mentula, en latin, c'est, je me réfère aux études lexicologiques de Florence Dupont dans Les Roches à Rome. Mentula est un terme extrêmement agressif et violent. Alors, vous, que c'est... Vous avez songé à autre chose pour que, pour Mentula, c'est-à-dire...
Donc, si vous saviez à quoi je songe, Bénédicte, vous ne seriez pas là en train de m'interroger. C'est amusant cette question parce que je me rappelle exactement du même débat au colloque Jude Stéphane il y a deux ans. Ou à propos de la même Mentula, si on peut dire, oui. On s'interrogeait sur la meilleure traduction de ce mot chez Catulle. Comment vous dire? D'abord, le degré de brutalité et d'obscénité des mots relève de la sensibilité de chacun par rapport à chacun d'autre. Je ne suis pas sûr, quant à moi, que le mot « que choisi voilà, » soit moins, ou plus d'ailleurs, obscène que le mot « bit » ou « dar » ou je ne sais pas, ou « nœud ». Bon, voilà, je ne sais pas s'il y a une objectivation possible du degré d'obscénité, du taux d'obscénité que recèlerait tel ou tel terme par rapport à tel autre. Je ne suis même pas sûr, mais là, évidemment, c'est faire peu de cas de la scientificité des spécialistes de langue latine, mais je ne suis même pas sûr que le mot Mentula puisse... qu'on puisse affirmer, surtout à partir d'aujourd'hui, que le mot Mentula était en soi un terme d'une brutalité non métaphorique. Parce qu'il n'existe pas de désignation des organes sexuels qui ne soit pas métaphorique. Il n'en existe aucun. Dans le vocabulaire sexuel de la latinité d'Adams, et donc il consacre deux ou trois pages à Mentula, bien sûr, hein. Comment ne pas le faire, il explique effectivement c'est le terme le plus couramment et brutalement proposé pour nommer le sexe masculin, s'appuyant entre autres mais principalement sur le fait que c'est le terme des graffitis, les graffitis de Pompéi, etc. Voilà. Mais n'empêche que dans l'article dont je parle, Adams ne peut pas s'empêcher de s'interroger sur l'étymologie du mot. Et donc, s'interrogeant sur l'étymologie du mot, Mentula, il le fait remonter à un mot menta, qui est la tige de la plante qu'on appelle la menthe. Ce qui fait qu'il rabat le mot, quelle qu'en soit la violence obscène, sur une origine métaphorique, qui, de ce point de vue-là, est ni plus ni moins métaphorique et ni plus ni moins chargé d'obscénité, ou plus ou moins chargé d'obscénité que Kaoda ou que, je ne sais pas, Badar, puisque je parlais de Dar, ou bien d'autres, ou Bit, d'ailleurs, qui, comme chacun sait, est un mot qui a une valeur métaphorique. Voilà. Alors après, ça veut dire qu'il faut faire des choix. Et je continue parce que c'est une question intéressante, hein, pas sur la question de plus ou moins d'obscène de la chose. Bon, quoi que ce soit forcément une question, mais qu'est-ce qui choque le plus, quoi. Bon, moi, personnellement, me choque davantage, ce n'est pas dans l'ordre de la confession, mais me choque davantage, parce que m'excite davantage, parce que donc me séduit davantage le mot « que », parce que l'animalité y est immédiatement indiquée. Voilà. Ce n'est pas que l'animalité soit en soi chargée d'obscénité, précisément elle ne l'est pas, sans quoi elle ne serait pas l'animalité, puisque l'obscénité c'est un critère de sensation d'ordre humain. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, à partir de là, je trafique comme je peux, moi, pour, dans la traduction que je propose, donner le maximum d'intensité, enfin le mot dont il me semble qu'il a le maximum d'intensité obscène. Voilà. Je charge la couleur comme un peintre charge la couleur jusqu'à la montée à sa plus grande intensité. Mais, le matériau et la manière dont je me sers pour mener l'obscénité à ce qui me semble être, moi, sa plus haute charge, ne relève que de mon choix subjectif, à partir d'un cadre qui est, bien sûr, donné par ce que Martial lui-même dit, et puis ce que les spécialistes du vocabulaire obscène de l'Antiquité me suggèrent, ce que je sais, moi, aujourd'hui, du vocabulaire sexuel et de son caractère, comme je le disais, toujours forcément métaphorique, voilà, enfin, ainsi de suite, voilà. Bon, mais après, ça touche forcément à une autre question, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que la question, c'est de savoir... Et là, Marcello s'est magnifiquement expliqué là-dessus tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on traduit quand on traduit ? Voilà. C'est-à-dire, quand je traduis un moment épigrammatique, est-ce que je choisis de le traduire dans une facture qui est une facture poétique, ne fût-ce parce que, par le fait que cette facture que je choisis présente les aspects formels de la poéticité, à savoir la rime et la métrique, qu'est-ce que je décide comme relevant de la poéticité, quoi ? Est-ce que c'est la dimension métaphorique ? À ce moment-là, je suis placé devant la nécessité de faire un choix d'ordre sémantique. C'est-à-dire que je vais choisir un terme plutôt qu'un autre. Ou bien je considère que la poéticité, c'est ce que Adorno appelait la poéticité, elle réside dans le mode de rebondissement écolalique à l'intérieur du vers d'une syllabe à une autre. Auquel cas, je vais opérer des choix qui ne seront plus dictés. Enfin, Marcello le disait, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Qui ne seront plus dictés d'abord, qui tiendront compte forcément, puisqu'on traîne toujours toutes les ficelles et toutes les casseroles, je veux dire, en même temps, mais qui ne seront plus dictés par la prédominance du choix et de la sélection sémantique, mais qui seront dictés par exemple, la prédominance d'un choix phonique. Alors, attendez, j'ai pas du tout terminé. ou qui seront déterminés par la dictée d'un choix métrique. Alors, de ce point de vue-là, par exemple, le mot bit est très ennuyeux. Un bit est très emmerdant parce que il y a ce foutu, si je puis dire, e muet du français. Quoi. Donc, c'est un mot qui n'est pas trop facile à manipuler dès l'instant où ce que l'on recherche prosodiquement relève d'un mode de condensation, de concentration, dont le français souvent, pour les raisons de tonicité occitone, est assez peu capable par rapport à d'autres langues, dont le latin. Voilà. Donc le mot « que », pour moi, c'est plus facile. Quoi, voilà. C'est plus facile de le faire entrer dans une prosodie dense. Parce que je ne vais pas avoir, sauf évidemment, je trouve des moyens pour avoir une voyelle dans le mot qui va suivre, mais ça limite mes possibilités. Donc, je préfère ce monosyllabe efficace, non pas en tant que pourvu d'un caractère obscène supplémentaire, mais en tant que monosyllabe, c'est-à-dire en tant qu'efficace dans sa possibilité d'entrer comme pièce dans ce petit puzzle qu'est la ligne de chaque vers. Voilà, tout simplement. Alors là, évidemment, j'aurais pu mettre bit à la rime. Alors, j'aurais dit, pour son épouse, il faut la queue. J'aurais fait rimer avec sexite et je m'en tirais comme ça. Mais bon, voilà, c'est toujours possibilité.
Et c'est justement là où ça devient intéressant, en prenant les cas concrets, c'est que vous êtes en train de reproposer une autre traduction, éventuellement en disant « j'aurais pu mettre bit avec sexite », sauf que là, précisément, j'ai fait exprès de souligner que peu, j'avais l'impression que c'était là le travail d'assonance et de rythme, donc le travail de prosodie et de versification, qui était entré en conflit ouvert, avec le travail sémantique, parce que préférant que, cependant, il y a d'autres cas, j'ai pas pu tout mettre ici, où précisément Mentula devient pin, ou vous voyez, vous avez varié les traductions.
Mentula devient pin dans le
C'est pas l'exemple ici, hein, c'est d'autres épigrammes, mais j'avais l'impression que précisément le ressenti d'obscénité personnelle était en fait le plus souvent soumis à l'impératif du signifiant, c'est-à-dire à l'impératif de l'écophonique. Et je passe au deuxième exemple qui me posait aussi problème à ce niveau-là. Donc c'est l'épigramme 9-21, Artemidor abet puerum sed vendidit agrum, tel vend son jardin pein putain, agrum pro puero calodorus abet, l'autre fil inverse à lui le jardin, dicuter equistis melius rem geserit aucte, à qui la meilleure combine, Artemidorus amat, Calliodorus arat. Et vous mettez le premier pin, l'autre bin. Alors, pourquoi je m'arrête à cet exemple par rapport à ce... Par rapport à ce... Ah non, mais moi j'adore. Il fallait bien que je me fasse l'avocate du diable, parce que j'aime quelque chose que je... Hein, bon, que je... Voilà, c'est le cas de le dire. Voilà. Mais le verbe latin amat... C'est le verbe le plus sentimental de la langue latine, c'est-à-dire que amat, c'est vraiment l'amour-sentiment, c'est faire l'amour avec sentiment, c'est pas, je suis obligée de passer par l'anglais pour bien faire sentir la différence, c'est pas to have sex, hein. C'est la différence en anglais entre to make love et to have sex. To make love, ça serait coitare en latin, et non, ça serait amare, et to have sex, ça serait coitare. Donc il y a dans le amat quelque chose de sentimental.
Je crois pas, non. Je crois que Martial a besoin d'un mat parce qu'il a la rate, c'est tout.
Justement.
La relation dont il est question, c'est la relation avec un giton, un puero.
Justement. Donc, le premier pin, l'autre bin. Vous avez été sensible, moi il m'avait semblé que c'était d'abord l'assonance en hâte qui avait gouverné le choix de votre mot.
Non, c'était la nécessité de varier une lettre.
Mm-hmm. Donc de respecter le signifiant.
De respecter, on ne respecte jamais le signifiant parce qu'il n'est pas respectable ni respectueux, mais le simple constat que Martial change une lettre, et le change d'une lettre fait passer d'un sens, d'un contexte, d'une connotation à l'autre. Mm-hmm. C'était ça le défi. Mm-hmm. J'aurais pu faire bien autre chose. Hein. J'avais d'autres possibilités. J'avais travaillé avec amour, enfin, l'amour et l'amour. Bon, why not?
Mais vous n'aviez baiser, plus la rime.
Baiser, boiser, ben, j'aurais trouvé une autre rime. Ça, oui. Vous savez, on se dépatouille. Hein, mais j'avais calcul, puisqu'il est question d'acheter un... Les copules, enfin, il y avait toujours des possibilités diverses. Bon, voilà, j'ai choisi celle qui a été publiée parce que, d'abord, elle avait pour moi un caractère d'étrangeté. Alors, parce que s'il y a un mot qui me paraît impossible, c'est pin. Voilà, à part de cheval, c'est quand même pas possible. Donc, voilà. Comme je ne pouvais pas mettre de cheval, je ne l'ai pas mis, donc ça fait un peu bizarre du coup. Mais voilà, ce n'est pas autre chose que je cherchais.
Oui, ce qui montre bien à quel point, et c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Marcello, c'est le contexte en réalité. C'est le contexte linguistique global et non pas le mot. Tu parlais du « mou », pourquoi tu avais finalement retenu cette traduction-là de « mou ». Et là, on se rend compte que, voilà, on est d'accord, il y a le jeu de mots de Martial, qui peut prêcher le faux pour savoir le vrai sur amat, voir comment le harat permet de retirer amat dans ce qui serait plus le coitare que le make love. Mais au final, la décision finale de traduction et de choix du lexique, c'est une décision contextuelle et ça n'est plus une décision d'un mot isolé qui nous ramène en fait à une vérité du traducteur que tu as très bien montré, et qui est que le mot dans la linguistique n'est jamais un mot isolé coupé, mais pris dans un ensemble contextuel assonantique, phrastique. Voilà. Alors.
Non, puis bon, il y a aussi avec Martial, il y a un truc, c'est qu'il ose tout, quoi. C'est-à-dire, il ose bien sûr le mauvais goût, il ose la bêtise. Il fait des jeux de mots qui sont téléphonés d'hiver avant. Donc, pour traduire, c'est charmant parce que ça décomplexe complètement le traducteur. Hein, de toute façon, il fera pas pire. Donc voilà, c'est aussi ce plaisir.
Alors, il y a, par exemple, là aussi où je voulais vous interroger, c'est sur la suivante, 1.46. Quand tu dis, donc en latin, cum dicis propero fac si facis et dile languet, quand tu dis je viens, vas-y, illico, vous avez lu aussi dans Grumeaux, protinus et quessa debilita ta venus, mon pauvre engin, vir au tout ramolo. Alors, là aussi, il y a quelque chose qui m'a fait question sur le choix de traduire donc venus par engin. Venus, c'est ici avec la majuscule. L'allégorisation qui nous tire vers le mythologique et que vous rabaissez violemment, grotesquement, en engin technique.
Je ne sais pas si je la rabaisse, mais vous avez raison. Hein, là, engin ne traduit pas Vénus, bon, ça c'est sûr. Bon, l'engin sorti des eaux, la naissance de l'engin, ça c'est sûr. Mars et l'engin. Bon, l'engin et Cupidon. Enfin, bon, tout ce qu'on veut. Mais, ouais, non, ça c'est sûr. Dans le sens inverse de ce qu'on disait pour le texte précédent.
Et c'est pour ça que
là, c'est un fait. Alors, c'est à peine un fait sémantique. C'est un fait de contextualité thématique, enfin, d'homogénéité thématique qui dit que la sensation, la compréhension que j'ai du texte de Martial, de l'épigramme de Martial, me le fait entendre comme quelque chose qui relève d'une mécanique. C'est la mécanique amoureuse. Quoi. Voilà, la mécanique amoureuse, l'acte sexuel comme mécanique, et on produit des effets mécaniques qui ont des résultats eux aussi mécaniques. Voilà. Et donc j'ai choisi, et là le choix est délibérément sémantique, voilà. J'ai choisi un mot qui, tout en désignant très volontiers dans la langue française, comme d'ailleurs à peu près tous les mots, le sexe masculin ou féminin, enfin, masculin en l'occurrence, a aussi par ailleurs son autre pied dans l'univers d'une mécanique triviale, voilà, hein. Une machine, un engin, voilà. Donc là c'est un choix plutôt d'ordre sémantique, voilà. Je crois qu'on peut dire ça. Mais c'est sûr que Vénus, dans le texte de Martial, emporte, pas le mot, emporte avec lui un tout autre faisceau, un tout autre nuage de connotation. Ça on est bien d'accord. Hein, ça,
on est bien d'accord. Mais je dirais qu'en fait, ce choix d'engin, ici, pour moi, incarne un moment où vous trouvez, c'est vraiment une trouvaille, moi j'admire beaucoup cet engin, une trouvaille de paraphrase, c'est-à-dire que, en un seul mot, précisément, vous explicitez ce qui est l'opération de Martial dans le texte latin de réduction grotesque de la dignité mythologique. Puisque Vénus, oui, c'est le mythe sublime, hein, dans son coquillage, mais ici, elle est rabaissée précisément à cause de l'hexamètre dactylique qui précède. Vas-y, c'est la mécanique pour le coup de l'amour. Donc, ce contraste de niveau de langue et ce contraste de niveau de sens entre le cru de la pratique mécanique amoureuse et le sublime du nom mythologique, vous l'avez finalement commenté en un seul mot, en délibérément choisissant la réduction du terme technique loin du nom mythologique. Voilà.
Ceci dit, c'est, là aussi, c'est comment dire, largement discutable, parce que la manière dont le mot Vénus et d'autres vient dans les épigrammes, si on prend les épigrammes dans leur ensemble, en général, il y a un certain nombre d'épigrammes dans lesquels Vénus, les connotations mythologiques et tout ce qui va avec, n'est pas du tout dévalorisé par Martial. Hein. Le dernier des textes que j'ai lu tout à l'heure, si je me souviens bien, où les questions du sacrifice à Vénus, les petits gâteaux, etc. Bon, c'est la Vénus magnifiée de la grande tradition de la poésie ancienne, avec son bagage d'ornement mythologique, ni plus ni moins. Il n'y a pas de distance par rapport à ça dans ce texte-là. Puis dans d'autres textes, effectivement, Vénus comme, je ne sais pas quoi, moi, comme les héros d'Homère, comme Pénélope, comme Jupiter, comme, etc., sont placés dans des situations bouffonnes, du genre du travestissement Scarron, en fait, hein, qui dévalorise et qui détruise complètement la grandiloquence mythographiée qu'on trouve chez les poètes latins. Il y a les deux positions chez Martial.
Mais les deux sont concurrentes.
Ils sont concurrentes, peuvent pratiquement cohabiter. Voilà, en plus, Martial, là, il faudra insister là-dessus, on n'a pas trop le temps d'y revenir, mais Martial, c'est pas le nom d'un poète, quoi. C'est le nom d'un faisceau de poètes, d'attitude, de position d'énonciation, d'opinion qui se synthétise dans ce jeu qui parle dans les textes, mais qui n'a jamais une position qui soit assignable à la personne de celui qui parle. Il occupe des postures, il occupe la posture du poète élégiaque, et puis à côté, il occupe la posture du travestissement de la poésie élégiaque, sans que ça pose aucun problème d'un poème à l'autre. Et ça aussi, c'est assez décomplexant.
Alors justement, ça me permet d'arriver à mes deux dernières questions. Parlant de la posture de Martial, où effectivement, qui n'est pas à confondre avec le Martial lui-même, comme vous le rappelez, Ce qui fait que Martial y a invité lui-même, il nous enjoint de le faire, c'est la question des fameux prénoms, des apostrophes mythologiques, qui sont tellement mythologiques ou grécisantes qu'elles empêchent de pointer le doigt vers une personne précise. Vous avez remarqué, c'est pour ça que je vous ai mis le texte latin, que systématiquement Christian Prigent ne traduit pas ces apostrophes. Alors, vous êtes déjà expliqué dans la postface là-dessus.
Je n'ai pas expliqué, j'ai dit pourquoi je l'avais fait.
Voilà, donc vous dites, c'est entre le ridicule des transpositions de Coster ou de Nogèse, hein, qui actualisent des Laurence, Roger, etc. Et puis, ou bien l'illisibilité du nom latin, qui, édile, ne dit plus rien à personne, ou... là, vous les prenez les uns après les autres, donc Cornelius, Artemidorus, etc. Alors, il y a juste un moment où ça me gêne. C'est dans l'épigramme 11-21, à Octet. C'est à Octet et le destinataire, à Octus. Or là, on est quand même dans un contexte où il est question d'augmentation.
J'ai laissé passer cet aoctet-là parce que j'ai laissé passer tous les... Donc, c'est un parti pris. Hein. J'ai pris le parti pris de ne traduire aucune des apostrophes. Mm-hmm. Je ne l'ai jamais fait. Ce qui était simplement un choix. Le choix qui m'a été un peu dicté parce que la sensation que j'avais devant les traductions de Dominique Noguès, que j'aime beaucoup, dont j'ai dit tout à l'heure à quel point elles avaient eu de l'influence sur ce que j'ai fait et avaient eu un rôle déclenchant, Noguès a choisi de transcrire les apostrophes de Martial par des prénoms français, qui ne sont pas des traductions des prénoms latins proposés par Martial, mais qui sont des prénoms modernes, André, Jacques, Pierre, Paul, Joséphine, enfin, etc. Alors ça produit un effet comique supplémentaire d'ailleurs, parce que souvent les prénoms sont rigolos et comme tous les prénoms, bien sûr, très rapidement datés. Donc aujourd'hui, si je mets Kevin, virgule, fais ceci, fais cela, je suis sûr que dans 10 ans, je suis aux poubelles de l'histoire. C'est un parti pris dont j'ai, on en avait parlé ensemble déjà, dont j'ai conscience
j'ai conscience qu'il ampute le texte de quelque chose, quoi, qu'il ampute le texte de son caractère explicitement insultant. Quoi. Bon, même si l'insulte n'est pas interprétable en termes d'insulte adressée à quelqu'un de repérable dans le temps et l'espace, puisque la plupart du temps ce serait des pseudonymes de toute manière, mais le fait même de l'insulte, quoi, le fait que l'épigramme s'adresse à quelqu'un de nommé. Alors bon, j'ai perdu ça et d'une certaine manière je le regrette, mais si j'avais dû faire le choix de ne pas procéder à cette amputation, voilà, bon, ça aurait été un choix possible. Évidemment, j'aurais été, dans le cas précis que vous soulevez, placé dans l'obligation d'avoir à trouver, pour traduire à octet, un mot français qui comporte cette connotation d'augmentation, d'érection, d'hypertrophie, etc. Le problème, c'est que en français, ça ne relèverait plus, me semble-t-il, hein, mais je peux me tromper, ça ne relèverait plus du prénom, mais du sobriquet. Quoi. C'est-à-dire que j'en serais forcé soit d'en passer par des sobriquets, pourquoi pas, ceci dit. Hein, je pourrais m'adresser à un monsieur Quetard. Hein, voilà. Soit il faudrait que j'en passe par des noms de famille, non pas des prénoms, hein, c'est-à-dire des noms de famille qui ont conservé dans leur chromosome étymologique le souvenir d'une signification qui serait d'une certaine manière proche de Haukté. Je pourrais m'adresser à un monsieur Vitu, par exemple. Hein, je le dis parce que j'ai eu à une année un élève qui s'appelait Vitu et je m'étais foutu dans la situation impossible d'expliquer à mes élèves en début d'année l'origine étymologique de leur nom. J'étais jeune professeur à ce moment-là, je n'avais pas le front d'expliquer à ce monsieur Vitu pourquoi il s'appelait Vitu. Donc je m'étais lâchement défilé en disant que ça devait être une déformation de Victor, avec un sentiment de honte. Voilà. Mais bref, j'aurais pu dire Vitu ou Quetard. Voilà. Donc Vitu, virgule, fait ceci, fait cela, Quetard, voilà, etc. Je suis pas sûr que ce soit terrible. Voilà.
Là, on touche à nouveau le problème de la traduction tel qu'on l'a abordé, c'est-à-dire comment vous pouvoir passer en portugais, en brésilien, et comment vous faire passer le latin en français. C'est que sur des points précis qui ne sont pas finalement comparables, on se heurte effectivement à un moment de difficulté, de pertinence de la traduction et la question du nom propre. Et entre le latin et le français, en incluant la réception, puisque Marcello, tu évoquais tout à l'heure l'influence de la réception dans la traduction, ici c'est elle qui a influencé votre choix de traduction. C'est-à-dire que c'est même plus ici la question de savoir ce que vous trouviez obscène ou pas, ce qui était une de mes premières questions avec la queue, hein, plutôt que bit, par exemple. Mais là, c'est comment faire que la traduction reste lisible aujourd'hui ? Et là, c'est carrément la réception du lectorat supposé qui vous a guidé dans votre parti pris d'écriture. Alors à ce moment-là, pourquoi puisque vous maniez tellement le polylinguisme, pourquoi vous n'êtes pas passé, par exemple, par l'anglais ? Les Anglais, ils ont un prénom qui veut dire bandé. C'est Dick. Dick, en anglais, c'est aussi bien un Dick que ton sexe bandé.
Ça ne s'est pas posé comme question, comme je vous le dis, dès l'instant où j'avais fait le choix de ne pas traduire ces prénoms. Donc après là je me repose la question parce qu'on en parle et puis que voilà. Bon, voilà. Mais j'ai fait en sorte de ne pas avoir à me poser la question, quoi. Voilà.
Alors je termine avec la dernière, où je reviens quand même à la charge. Sur l'idée d'une autre façon qu'a eu Martial, il me semble, de raisonner chez vous et de raisonner précisément par cette manière dont vous avez pu être sensible à cette conscience critique du maniement de la langue. Et c'est l'épigramme 2-7. Elle n'est pas isolée, d'ailleurs, quand on prend vos 650 épigrammes, il y en a d'autres qui sont retenus dans le même style. Vous l'avez lu, vous l'avez aussi retenu pour la lecture de Grumeau, ce qui n'est pas un hasard. et tout le monde a été sensible, quand vous l'avez lu, au côté extrêmement rhétorique de cet épigramme, qui est composé d'épiphores, hein, donc l'épiphore, l'inverse de l'anaphore, la répétition en fin de vers du même mot, bien, qui correspond strictement à l'épiphore latine, vous l'avez, je vous l'ai ressouligné, de Belle. Sauf que le latin est dans le polyptote entre Belle, non, pas dans le polyptote, mais dans la paronomase entre Belle, Bellas, hein, Bellus, hein, et qu'en plus, donc, on a le redoublement de cette répétition très, très rhétorique. Et je me suis dit, mais ce qui a résonné en vous dans le choix de cet épigramme, parce qu'elle n'est pas, pour le coup, elle ne fait pas partie du chant obscène, elle le fait encore moins partie que Ardalio est, Ardalio en latin, n'a rien d'obscène. Ardalus, c'est juste l'embarras. Voilà, alors vous avez remis en emmerde, hein, pour là, en revanche, ajouter une charge agressive et très, on va dire vulgaire du mot emmerde, qui n'est pas dans le texte de Martial. Mais ce qui m'a frappé, c'est que, par exemple, toute la première colonne de répétition, Belle, Bellas, Belle, alors je suis fatiguée, mais j'ai plein de gens qui vont pouvoir m'aider. Quand un sonnet rime à la fois par la moitié et la fin, c'est un sonnet rapporté. Merci, Jean. Voilà. Donc là, on est dans le... Alors, on ne va pas parler de sonnet rapporté, mais on est dans une épigramme rapportée. Vous avez Belle, Bellas, Belle, qui se déploie, qui dérape en revenant sur une presque anaphore bellus, belle bellus, et qui aboutit sur nil, rien. L'anaphore ou l'épiphore ou la répétition aboutit sur rien. Et la question que je me demandais, c'est voilà, vous avez retenu cet épigramme-là, c'est ça qui vous a structuré, c'est ça qui a fait écho en vous? Qu'est-ce qui a fait écho en vous pour celle-là?
Je crois que ce qui a fait écho d'abord, c'est que ça fait partie des épigrammes qui me font rire. Hein. Voilà, bon, il y a simplement un goût de ce comique-là. Quoi, voilà. Et puis ensuite, effectivement, le défi, enfin c'est pas un défi, parce que ça c'est très facile. Là, la proximité du latin et du français permet quand même d'avoir à peine à faire un travail de traduction, hein. C'est presque littéral ce que je traduis, quoi, en fait. Voilà. Donc, mais j'étais intéressé par l'évidence surlignée du rhétorique. Voilà. C'est-à-dire ce que vous avez décrit, je ne vais pas y revenir, mais bon, l'évidence surlignée du rhétorique et le plaisir qu'il y a à reproduire ce surlignage. Voilà. Mmh. Voir le sur-surligner, voilà, en rajouter.
Une gonflette, on va dire, une gonflette rhétorique qui est dégonflée. Mais moi, ce qui me frappe...
Ce que vous disiez, gonflette, ça m'est... Je trouve que c'est intéressant, parce que je crois que dans la postface, je parle du fait de traduire, enfin de l'exercice qu'est la traduction abondante et constante de très nombreux épigrammes comme des séances de poetry building, voilà. Parce que c'est, il y a une façon de s'entraîner, de se maintenir en forme dans la capacité de jouer avec la rhétorique, de maîtriser avec une relative aisance des solutions prosodiques variées, de voir tomber les rimes comme ça, sous le clavier, avec la jouissance qu'elle tombe à très très grande vitesse, sans avoir à aller chercher. Bon, voilà, ça c'est des exercices en salle. Voilà. Après, il faut sortir un petit peu vers l'extérieur et une nature plus complexe pour écrire vraiment. Mais bon, ça fait du bien d'être dans sa petite salle d'agrès rhétorique pour se maintenir un peu la musculature du neurone en forme.
Je terminerai par une remarque pour laisser... On a largement débordé, mais je crois que l'empire cet après-midi, on a débordé. Moi, je suis frappée par quelque chose. Là. Je vous ai tendu plusieurs fois des perches. Et voilà, ça fait écho en vous comment la symbolisation qui est trouée par le vocabulaire obscène la gonflette rhétorique qui est ramenée au nihil. Et en fait, on comprend maintenant pleinement ce que vous avez dit comme premier mot. C'est une sorte d'allégresse de la traduction. C'est-à-dire que le pathos prigentien du rapport conflictuel extrêmement violent avec la langue, ici, c'est ce que je suis en train de comprendre maintenant, que je n'avais pas compris. Non, ce n'est pas ce qui vous a fait retenir Martial, même quand le texte se prêterait à cette lecture. Parce que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre matière à vous.
Ben non, déjà, l'éloignement dans le temps fait loi quand même quant à la substance que traitent les poèmes de Martial. Mais vous savez, qu'est-ce qu'on est quand on s'intéresse au, quand on est un écrivain contemporain soucieux de modernité et qu'on s'intéresse aux anciens, ce qu'on va rechercher chez les anciens, ce ne sont pas des visions du monde ou des contenus ou des concepts ou des décors du temps, parce que tout cela est passé dans l'obsolescence, dans la poussière des choses. Mais ce qu'on va chercher, c'est un échange d'énergie, quoi. Voilà, on essaie de se placer soit vivant devant l'autre ancien reconsidéré en tant que vivant. Voilà. Donc ce qu'il s'agit d'aller chercher, c'est dans l'illusion vraisemblablement, mais en l'occurrence peu importe, un état de cette ancienneté qui soit non pas de l'ordre justement de l'ancienneté, mais de l'ordre de l'état d'énergie dont disposait celui qui écrivait dans le temps où il écrivait. Voilà. Donc moi j'ai essayé de retrouver quelque chose de l'énergie de Martial, quoi. Et voilà. Et en ce sens-là, je dis dans la postface quelque part que là je tends la main, je serre la main à ce Martial. Parce que oui, moi, le rapport que j'essaie d'avoir avec les anciens, c'est pas un rapport d'érudition, de savoir, même pas d'interprétation, c'est un rapport de camaraderie, quoi. Salut, camarade. Voilà, salut, camarade. Tu étais dans ton temps d'énergie, tu écrivais ça. Eh ben, dans mon temps d'énergie à moi, je vais écrire ça, et ça va faire un effet de connexion quelque part. Voilà. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Enfin, si, s'il n'y a pas ça, il y a la science, il y a le musée, il y a le patrimoine, il y a des choses extrêmement utiles et admirables. Mais il n'y a pas la transmission, quoi. Il n'y a pas la transmission de l'énergie qui fait qu'au travers les temps, les hommes écrivent des livres. Ce livre ne s'intitule 650 épigrammes. Il n'est pas indiqué comme traduction. Hein. J'ai appelé ça des recyclages. C'est pas pour me garantir des éventuelles mesures de rétorsion des traducteurs officiels, mais c'est parce qu'effectivement ce sont des recyclages. J'essaie de récupérer le matériau de, il est plus là, mais non, le matériau de Martial recycleur lui-même, et puis de le faire à nouveau fonctionner dans un contexte plus actuel, au prix éventuellement, encore pas très souvent, d'anachronismes comme ça de temps en temps, pour que je garde simplement parce que je les trouve rigolos, en fait. Hein. Bon, voilà. Mais pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça.